haineux s'est tourné directement vers Nicolas Sarkozy, qui à l'époque devait être ministre de l'Intérieur, je crois.
Voilà, alors ça, c'est en quelque sorte, c'est bien la preuve, on va dire, que Nicolas Sarkozy n'a pas joué qu'un rôle institutionnel. Parce qu'après tout, on pourrait dire, oui, mais à l'époque, il était ministre du Budget, donc de fait, il était obligé de valider la création d'une société pour évacuer des commissions. Non, il a fait plus que ça, parce que sinon, pourquoi, quasiment, oui, plus de 10 ans plus tard, au moment de la dissolution de la société, on ferait encore appel à lui, alors que là, pour le coup, il n'a plus aucune raison d'intervenir. Il est ministre de l'Intérieur, ça n'a plus aucun sens qu'on fasse appel, entre guillemets, à ses services et pour s'occuper de sa société. Donc ça veut bien dire qu'il a un lien particulier avec la création de sa société.
Alors c'est marrant quand même de se dire que l'homme qui va dans les G20 pour réclamer la disparition des paradis fiscaux et ainsi de suite est aussi celui qui... sinon crée, du moins autorise, recommande la création d'une société offshore au Luxembourg.
Là, vous pointez un élément très important, parce qu'en fait, il y a le Nicolas Sarkozy, chef de l'État, qu'on connaît aujourd'hui, qui effectivement, dans les grands sommets internationaux, qui prend des positions logiques contre le blanchiment et les transactions financières douteuses. Mais il y a eu aussi le Nicolas Sarkozy des années 90 qui s'occupait de la campagne d'Edouard Balladur, qui en tant que ministre du Budget donc validait des contrats, on va dire pour le moins suspects. Et il est évident que c'est ce qui embarrasse Nicolas Sarkozy dans cette affaire, c'est que son passé en quelque sorte lui revienne un peu à la figure. Or, à l'époque, il faut bien voir que M. Sarkozy, en quelque sorte, est des deux côtés du manche, puisqu'il va être le directeur de la campagne d'Edouard Balladur, et en même temps, il est ministre du Budget. Donc c'est lui qui signe les contrats d'armement, et c'est lui qui s'occupe de la campagne du Premier ministre. Donc on voit bien que si il y a eu malversation, il était aux premières loges. Donc effectivement, de ce point de vue-là, on peut imaginer qu'il n'ait aucun intérêt à ce que la vérité se fasse.
Écoutez, c'est ridicule. Franchement, franchement, c'est ridicule.
Édouard Balladur va mener campagne avec une manne financière normale, puisque bon, on a les chiffres de sa campagne, mais il dépense des dizaines de millions d'euros comme les autres, on va dire. Mais il est battu quand même. Malgré ses ressources financières, il est battu. Et au lendemain de la défaite, le 26 avril 1994, on a 10 250 000 francs qui arrivent au Crédit du Nord, mais qui arrivent non pas par des chèques, mais qui arrivent dans 4 gros sacs bien remplis. Et 4 sacs remplis de coupures de 100 et 500 francs. C'est un joli cadeau de Noël quand même.
Oui, à ce que je sache, c'est du jamais vu. Et c'est non seulement étrange, mais je pense qu'on peut dire que c'est suspect, pour le moins. D'autant plus que cet argent est arrivé en coupures de 500 francs. Gros billet, neuf. Donc on se demande vraiment d'où vient cet argent. Et l'explication qui est fort embarrassée, qui est donnée aujourd'hui par Édouard Balladur, fait plutôt sourire, puisqu'il nous dit qu'en fait, c'était l'argent collecté auprès des militants dans les meetings de la campagne électorale et correspondant donc à la vente de badges, de pins ou autres t-shirts et casquettes à l'effigie de M. Balladur.
Il y a eu une Balladuromania, là, qui a permis de vendre des t-shirts avec la photo d'Edouard Balladur dessus. Exactement. À hauteur de 10 millions de francs. C'est quand même pas mal.
Donc il faudrait trouver des images d'archives des journaux télévisés de l'époque ou des journaux papier, tout simplement, pour voir si effectivement les rues du pays étaient envahies de personnes arborant des t-shirts ou des casquettes à l'effigie d'Edouard Balladur, parce qu'il a fallu en vendre beaucoup quand même. Et d'autre part, ce qui est aussi intriguant, c'est que les militants à l'époque du RPR Balladurien étaient très généreux, puisque manifestement, ils achetaient des casquettes avec des billets de 500 francs.
Moi, je me souviens très bien qu'à l'époque, je me baladais avec un t-shirt, avec Édouard Balladur sur le t-shirt. J'étais absolument fan, quoi.
Et vous l'aviez payé 500 francs?
Exactement, j'avais les moyens. J'avais 20 ans, c'est l'âge où on est baladurien, quoi.
C'est l'âge où on est fou.
Il n'y a pas que nous qui trouvons ça étrange. Ces coupures de 100 et 500 francs qui arrivent dans 4 gros sacs au lendemain de la défaite d'Edouard Balladur. Il y a aussi les rapporteurs du Conseil constitutionnel qui doivent valider les comptes et qui, après audition d'Edouard Balladur, trouvent ces explications pas du tout convaincantes et proposent tout simplement le rejet du compte de campagne d'Edouard Balladur. Alors là, Edouard Balladur, il aurait été peut-être pas à la rue, mais enfin, il aurait été mal, parce que ça veut dire l'État lui aurait rien payé de sa campagne.
Absolument, et de toute façon, symboliquement, ça aurait été quand même assez fort que les comptes de M. Balladur soient rejetés au motif qu'il présentait des mouvements financiers suspects. Or, ce qui s'est passé, il y a eu manifestement un micmac au Conseil constitutionnel, puisqu'on sait aujourd'hui que les rapporteurs, ceux qui ont vraiment travaillé sur le terrain, qui ont épluché les comptes, concluaient que c'était anormal, qu'il n'y avait pas d'explication rationnelle et qu'il fallait rejeter ces comptes. Et pour autant, le Conseil constitutionnel, présidé à l'époque, il faut le rappeler, par Roland Dumas, a validé.
Roland Dumas, qui lui-même était pris dans une histoire